Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, tous les lundis, on parle de l'actualité littéraire dans le réveil culturel. Commencer la semaine avec les livres, c'est bien. Alors cette année, sur les 567 romans publiés à la rentrée, on compte 94 premiers romans. Et ces dernières semaines, en fait, pour être très précis, depuis les débuts de l'été avec ma collègue du magazine Transfuge, Oriane Jeancourt, on a pris le temps de tous les lire avant de vous proposer aujourd'hui notre sélection des premier roman. Et mon invité ce matin est Aurélie Razimbaud, auteure d'Une vie de pierre chaude chez Albin Michel. Le réveil culturel, c'est tous les jours à la radio pour ceux qui se lèvent tôt ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amard. À la réalisation, Vincent Abouchard. À la technique, Régis Nicolas. Le réveil culturel, c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Et parmi les romans de la rentrée, arrêtons-nous sur celui que vient de faire paraître chez Albin Michel, notre invité ce matin, Aurélie Razimbaud. Bonjour.
Bonjour.
Une vie de pierre chaude, un roman qui ressemble à un kaléidoscope qui brille sous le soleil de l'Algérie, produisant avec les mêmes protagonistes plusieurs combinaisons d'histoires de 1958 à 1998. Et toujours l'Algérie, même quand on est à Marseille. Toujours ce pays, cette terre, son histoire, sa géographie d'Alger à Sim et Saoud, en temps de paix et en temps de confrontation, avant et après l'indépendance, avant et après les renoncements, les désillusions, les départs, les promesses d'une vie meilleure. L'Algérie en littérature est fatalement, bien sûr, le fantôme du grand Albert qui s'invite, lui, si présent, des fois encombrant, Albert Camus, pour qui sa vie se jouait là-bas. Une vie à goût de pierre chaude, plein de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. Cité noce à Tipaza de Camus en préambule pour expliquer le titre de votre roman édité chez Albin Michel, Une vie de pierre chaude. Comme s'il fallait au moins ça. Camus pour revenir en Algérie, pour écrire encore sur ce pays.
C'est pas qu'il fallait au moins ça, c'est surtout que Camus m'a accompagnée pendant toute l'écriture de ce roman. C'est un auteur que j'aime énormément. Et j'aime beaucoup son approche à la fois très sensuelle, très sensitive de l'Algérie, avec les couleurs, avec les sensations, qui est aussi, moi, ma façon d'écrire. Alors, c'est pas du tout pour me comparer à Camus, c'est plutôt très humblement le considérer comme un compagnon de route. Et après, au niveau de la citation qui ouvre le roman, c'est aussi, c'est plus que pour expliquer le titre, c'est aussi pour avoir un petit sas, un peu comme au théâtre, pour mettre le lecteur dans l'ambiance et dire, voilà, on va être avant tout dans l'histoire d'un homme, dans l'histoire d'un corps, dans l'histoire d'une sensation et dans l'histoire d'un pays.
Je peux vous poser la question, Aurélie Razimbaud, ce roman, Une vie de pierre chaude, c'est quoi? C'est des affinités littéraires? Retrouver Camus, accompagner Camus, continuer le voyage d'Albert Camus, ou ce sont des fragments de votre vie familiale? Je rappelle que vous êtes né en 1983, soit 21 ans après l'indépendance du pays, mais à Aix-en-Provence. Ce qui n'est pas rien, ce détail.
Alors le point de départ, bien avant Camus, pour ce roman, il y a le silence.
De votre famille, je suppose.
Le silence de mon grand-père. Et en me documentant sur la guerre d'Algérie, j'ai pris conscience que le silence de mon grand-père autour de sa guerre d'Algérie, c'était probablement le silence d'autres grands-pères, d'oncles, de maris, de milliers d'appelés qui ont été envoyés très jeunes, à peine 20 ans, dans cette guerre dont ils ne savaient rien, dans cette guerre qui ne disait pas son nom. Ils ont été envoyés là-bas, ils ont connu l'enfer pour beaucoup d'entre eux. Et en rentrant, ils se sont enfermés dans le silence. Ils ont pas pu en parler à qui que ce soit.
Ce silence qui se transmet de génération en génération?
Ce silence, effectivement, dans la transmission, au lieu de transmettre la parole, au lieu de transmettre l'histoire de la famille, au lieu de transmettre la mémoire, on transmet le silence.
Ça veut dire quoi, transmettre le silence? C'est un nuage? On sait à peu près que votre grand-père était en Algérie, et on n'en dit pas plus? Il y a des objets qui renvoient à ce pays?
Je n'en sais pas beaucoup plus, en tout cas sur la partie guerre, puisqu'il n'a jamais pu me la raconter. C'est vraiment de là qu'est parti le livre. Et je me suis dit, au fond, pourquoi pas raconter, moi, dans un roman, cette guerre qu'il n'a pas pu raconter, et de façon plus générale, essayer de rendre la parole à ceux qui se sont tus, ceux qui se sont enfermés dans le silence en rentrant après cette guerre.
Alors, une fois que vous dites ça, Aurélie Razin-Beau, on imagine un énième roman sur la relation conflictuelle qu'entretient la France avec ses anciennes colonies, et plus particulièrement avec l'Algérie. On imagine aussi un récit autour de la guerre d'Algérie, de ces silences de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie ou qui ont habité ce pays. Mais c'est pas du tout ça, hein. Pas du tout, parce que dès les premières pages, on est surpris. Nous sommes dans l'Algérie post-indépendance, post-Albert Camus, on peut le dire, nous sommes à Alger en 1970, et il reste encore des Français d'Algérie, ou des Français venus en Algérie, ou des Français chez eux en Algérie, pieds noirs aux pieds rouges, on n'en sait rien au début.
On n'en sait rien.
Il y a lui, en tout cas, lui, son rire moqueur, il y a des amis, ses amis, il y a sa famille, il y a Rose Guettari, il y a Jean-Pierre, Elisabeth et Thierry, et puis il y a Antoine, qui danse si bien la valse. Il y a le destin de chacun des personnages qui va rencontrer le Mektoub de ce pays, avant, pendant et après l'indépendance de l'Algérie. Autant dire avant, pendant et après la guerre.
C'est vrai que c'est plus un roman sur la guerre après la guerre que sur la guerre elle-même. C'est sur la guerre qui continue même quand elle est terminée. C'est la guerre qui prend d'autres formes. Ça prend la forme d'une guerre intérieure, tout d'abord, entre un homme et lui-même. Donc c'est ce personnage de Louis qui a été envoyé dans cette guerre à 20 ans, qui a été traumatisé par ce qu'il a vu, par ce qu'il a fait. D'ailleurs, au début du roman et jusqu'à la fin, on ne saura pas ce qu'il a vu et ce qu'il a fait ou pas fait. Et donc la guerre se continue comme ça, en fait, dans chaque homme. Et elle se poursuit aussi dans le cœur de leurs femmes, de leurs enfants. Elle se poursuit aussi de façon plus large entre les communautés. Donc c'est plus un livre sur effectivement moins sur la guerre d'Algérie elle-même que sur ses silences et sur cette guerre qui continue, qui prend d'autres formes.
Sauf que vous avez fait le choix, Aurélie Razin-Beau, de parler de Français qui ont décidé de rester en Algérie au lendemain de l'indépendance.
Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné au début, c'est inspiré d'une histoire familiale. Et pour le coup, mon grand-père, qui n'est pas très loquace sur sa guerre d'Algérie, est beaucoup plus loquace sur son exploration du pétrole à Alger et à Assim et Saoud. Donc ça, c'est inspiré plus de sa véritable histoire personnelle. Et je trouvais ça intéressant d'ouvrir le roman sur quelque chose de très solaire, de festif, d'en apparence joyeux. Il fait beau, le ciel est bleu, le pays est magnifique. On fait la fête, on joue
réunie,
au tennis.
Les amis sont là.
Les amis sont là. Tout a l'air pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, très vite, le bonheur entre Louis et Rose, qui vient de se marier, commence à s'écailler, à s'effriter. Les drames se nouent, il y a des tensions. Louis fait des cauchemars. On ne comprend pas ce qu'il a fait. On sent qu'il est hanté par un passé. Mais voilà, il y a tout un mystère qui se crée. Et c'est vrai que de situer l'action dans l'Algérie post-indépendance, c'était donc pour cet effet de festif, de contraste, mais c'est aussi pour incarner cette guerre qui continue, parce qu'on a toujours finalement ces deux communautés, les Européens et les Algériens, qui ne se mélangent pas. Il y a des choses comme ça qui ne changent pas malgré l'indépendance.
Y compris quand vous jouez avec les temporalités, parce qu'on peut le dire, chaque chapitre renvoie à un moment clé. On est soit à Alger, soit à Assim et Saoud, soit à Marseille, soit à Tizi Ouzou en Kabylie. Et on peut être aussi bien dans les années 70 que dans les années de la guerre, c'est-à-dire dans les années 50, qu'en 1998, quand la France fête un certain Zinedine Zidane. Et là aussi, c'est l'Algérie, la guerre d'Algérie.
Là, c'est encore l'Algérie.
La mémoire algérienne. Expliquez-nous comment, Aurélie Razin-Beau. Pourquoi c'est encore la guerre d'Algérie quand
le 12 juillet 1998.
Ouais, ouais.
Alors, pour moi, c'est pas que c'est encore la guerre d'Algérie, mais clore ce roman, parce que dans la deuxième partie, donc, comme vous le dites, il y a ces allers-retours entre le 12 juillet 1998 et d'autres périodes de la vie de Louis. Mais finalement, le roman se close à cette date-là. Et c'est la date où Zidane a permis à la France de gagner la Coupe du Monde de football. Et pour moi, ce jour-là, finalement, c'est une espèce d'apothéose de réconciliation nationale. C'est-à-dire que c'est un jour où on a eu l'impression, en France, on n'avait pas ressenti ça depuis longtemps, et pour le coup, j'étais née, cette espèce de sentiment d'union, de fraternité, la France black, blanc, beurre, on avait l'impression que c'était possible de vivre tous ensemble en paix. Donc, c'est effectivement la guerre d'Algérie qui est encore là, mais c'est pour moi, c'est le jour où on a touché vraiment du doigt la possibilité d'une réconciliation. Donc ça, c'est la réconciliation collective. Et puis après, au niveau du personnage, c'est aussi le jour où lui, on a l'impression qu'il va enfin atteindre une forme de paix. Donc il y a comme ça une double réconciliation qui se joue à ce moment-là.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et puis toutes ces années-là, à se poser la question, faut-il rester, faut-il partir? Vous faites parler vos personnages, on les suit dans leurs doutes, dans leurs hésitations. On vit avec eux aussi des moments de l'Algérie indépendante, entre autres ce moment très, très important qui est à la nationalisation du pétrole et du gaz. Et tout ça, c'est le fond de cette histoire où les protagonistes ont l'impression qu'ils vivent aussi bien le présent que le passé qui ne passe pas.
Exactement, c'est un livre sur des personnages qui sont hantés par l'histoire et emportés par la violence de l'histoire. C'est-à-dire que Louis, à 20 ans, va connaître la guerre d'Algérie. C'est un événement qui va changer sa vie à jamais, qui va le changer. Toute sa vie, il va essayer de retrouver la paix, de retrouver celui qu'il était avant cette guerre. Et même quand il est, même quand on a l'impression qu'il fait des choix, qu'il prend des décisions, c'est vrai qu'on le sent emporté par cette histoire. Lui a envie de rester en Algérie parce que on le découvrira après, mais parce qu'il a des attachements qui datent il y a très longtemps. On va pas révéler ici le nœud de l'intrigue, mais lui a envie de rester et finalement il va être contraint à l'exil à Marseille pendant quelques mois.
Peut-être pas seul, on n'en dira pas plus.
On n'en dira pas plus. Rose, de son épouse de son côté, c'est plus complexe. Elle est arrivée là, elle avait une dizaine d'années. Elle se plaît pas vraiment, comme beaucoup de femmes expatriées à l'époque, parce qu'elles s'ennuient, même si elles ont de la chance. Elles jouent au tennis, elles vont à des soirées, elles vont à la plage, mais elles s'ennuient. Pour elle, elle rêve de Paris, des musées, de la pluie. C'est très exotique. Donc on a effectivement comme ça des personnages qui sont... les jouets de l'histoire avec un grand H.
Et vous, Aurélie Razimbaud, dans ce roman, Une vie de pierre chaude, quel est votre rôle? Celle qui peut continuer cette histoire? Celle à qui on n'a pas voulu raconter cette histoire et qui renoue les fils de la mémoire? Est-ce que vous êtes allée en Algérie, par exemple, pour écrire ce roman?
Alors, techniquement, j'y suis allée, mais ça compte pas, parce que j'avais entre 0 et 1 an. Et c'est pas l'envie qui manque. Mais je pense que maintenant je suis prête à y aller, maintenant que le roman est fait, maintenant qu'il est sorti, enfin qu'il va sortir, là incessamment. Je suis prête à y aller et c'est vraiment un pays qui me fascine depuis toujours, puisque C'est un pays qui est présent dans notre mémoire familiale depuis toujours.
C'est étrange de dire ça. Maintenant que les livres sont faits, je peux pouvoir aller en Algérie.
Oui, parce que je vais pouvoir y aller juste moi en tant qu'Aurélie, pas moi en tant qu'Aurélie qui écrit un roman. C'est pas dans une démarche de documentation, d'observation. Je vais y être juste là avec les sensations, avec le cœur et avec l'âme et pas avec la tête.
À toi qui ne liras jamais ce livre, je suppose que c'est à votre grand-père que vous dédiez ce roman, Une vie de pierre chaude, Aurélie Razimbaud.
Alors, c'est à ma grand-mère en fait. À ma grand-mère qui comme Rose, a perdu la mémoire maintenant. Donc la femme de mon grand-père. Et c'est l'une des personnes les plus importantes pour moi. C'est elle qui m'a éveillée à l'amour de la littérature et de la lecture. Et c'est vrai qu'en écrivant ce roman, évidemment, je pensais énormément à mon grand-père, mais aussi beaucoup à elle, parce que...
Elle parlait, contrairement à votre grand-père qui était silencieux, elle vous parlait d'Algérie ?
Elle en parlait, elle ne parlait pas des choses qui fâchent. Elle parlait de l'équitation, des parties de tennis, des soirées, des amis, des gens qui étaient gentils, du soleil, mais elle parlait pas des choses. Et j'ai pas eu le temps. Moi, j'étais trop jeune quand elle a commencé à perdre la mémoire. J'ai pas eu le temps ou l'occasion de rentrer dans le vif du sujet, on va dire.
Est-ce que vous vous sentez héritière d'une histoire particulière, c'est-à-dire d'une histoire coloniale ou d'une histoire de la France en Algérie, Aurélie Razimbaud ?
Je me sens héritière d'une histoire coloniale en tant que Française, mais pas en tant que Française dont les grands-parents ont vécu en Algérie. Je pense que c'est notre histoire et notre responsabilité en tant que Français, qu'on ait des liens avec l'Algérie ou pas, de se sentir héritier de cette histoire-là.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous n'écrivez pas ?
Je suis galeriste en photographie et je suis également en train de créer une maison d'édition pour les enfants.
Alors, Une vie de pierre chaude est présentée comme un premier roman, Aurélie Razimbaud.
Oui.
Et ce n'est pas votre premier roman, puisqu'il y a un peu plus de 10 ans, 2007, vous avez fait paraître Au-dessus des étoiles.
Qui est un livre pour la jeunesse. Si je pouvais revenir en arrière, je me garderais bien, je le laisserais dans un tiroir. Mon premier roman, c'est celui-là.
Vous avez passé combien de temps avec Une vie de pierre chaude, votre premier roman officiel, donc Aurélie Razimbaud, même si ce n'est pas le premier roman qui sort en librairie de vous.
Eh bien, entre l'idée et la publication, il se sera bien passé 10 ans. Donc, c'est vous dire le temps de maturation, de documentation et d'écriture. Donc, c'est pour ça que je peux dire vraiment fièrement que c'est vraiment lui le bon et lui le premier.
Et votre vie avec les livres, vous pouvez nous en parler, Aurélie Razimbaud ?
Oui, alors, les livres sont ma vie, en fait, de façon plus... pour être très, très simple. Mes auteurs phares, on a parlé de Camus.
Alors, comment Camus s'est imposé ? Par la famille ? Par l'histoire familiale ? Par l'école ?
Non, par l'école. Par l'école, tout simplement, l'étranger... au programme de seconde, donc de façon vraiment très classique.
D'ailleurs, vous voulez dire qu'en seconde, vous n'étiez pas du tout au courant de la vie algérienne de vos grands-parents ?
Si, mais c'est... Leur vie algérienne ne me donnait pas forcément envie de lire Camus. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était deux hémisphères séparés. Et c'est par l'école, j'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs de français, et c'est souvent par eux que je suis venue à la littérature, plus que par l'histoire familiale. Après, il y a les livres que ma grand-mère me mettait entre les mains, mais qui sont d'autres types de livres.
La Comtesse de Ségur, je suppose, ce genre
de livres. Ah non, c'était plutôt Stephen King ou ce genre de choses. Oui, oui, elle était très littérature américaine. John Irving, Gemma Kearney, ouais, beaucoup d'anglo-saxons. Et déjà assez jeune, elle me faisait lire ce genre de choses.
Il y a un auteur ou des auteurs qui vous ont donné envie de devenir à votre tour auteur, Aurélie Razimbaud ?
Ceux que j'aime lire, donc Camus, donc Duras, Kessel, les Japonais, Murakami, Kawabata. Après, c'est décourageant aussi. Encore une fois, je reviens à Camus parce que je voudrais vraiment pas qu'on pense que... c'est vraiment en toute humilité que j'ai ouvert mon livre avec une citation de son texte. Mais parfois, c'est décourageant. Quand on est soi-même en train d'écrire un roman et qu'on lit du Camus à côté, on se dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ? Ça sert à rien, ce que je fais, c'est nul. » Voilà, tout est là, tout a été dit, tout a été écrit. Pourquoi Pourquoi rajouter encore pourquoi vouloir absolument rajouter sa pierre à l'édifice? Et ça, c'est quelque chose que je n'explique pas encore. C'est très mystérieux, cette pulsion d'écriture.
Est-ce qu'on écrit pour parler de son histoire, de sa famille, de soi-même, ou on écrit pour d'autres raisons, d'autres plaisirs, peut-être même des plaisirs mystérieux qu'on n'arrive pas à expliquer, pour terminer cet entretien?
Il y a de ça, il y a un plaisir mystérieux qu'on n'arrive pas à expliquer, et puis il y a aussi... j'ai envie d'écrire pour les hommes et les femmes, en fait, tout simplement de façon très large. Et c'est pour ça que j'ai essayé dans ce roman d'avoir une posture, enfin voilà, d'être entre guillemets à hauteur d'homme, d'être dans quelque chose de très humaniste, pour que, à travers ce destin de Louis, qui est un destin singulier, on retrouve en fait, parce que la vie de Louis, finalement, c'est quoi ? C'est une quête de réconciliation avec lui-même, c'est une quête de paix, c'est une quête de soi. C'est finalement quelque chose d'assez universel qui peut, j'espère, toucher beaucoup de monde. Et moi, c'est surtout pour ça que j'écris. C'est beaucoup moins. Alors, il se trouve qu'il y a une histoire familiale qui m'a inspirée, mais c'est pas pour ça que j'écris vraiment. C'est plus pour essayer de toucher quelque chose dans le cœur de chaque personne qui va me lire, j'espère.
C'est édité chez Albin Michel, Une vie de pierre chaude d'Aurélie Razimbaud. Merci d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci Toufik Hakem.
Spéciale premier roman aujourd'hui dans le réveil culturel. Après notre coup de cœur pour Une vie de pierre chaude d'Aurélie Razimbaud, voyons voir les coups de cœur du magazine Transfuge. Bonjour Oriane Jeancourt.
Bonjour Toufik Hakem. Bah écoutez, oui, nous avons quelques coups de cœur puisque comme vous, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de premiers romans et beaucoup de brillants premiers romans en cette rentrée et ça, on ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire que la relève est assurée. On a trois premiers romans qui nous ont particulièrement marqués. Deux romans français, en tout cas de langue française. Le premier d'Antoine Berrabeur qui s'appelle La grande idée chez Gallimard. Et qui est un roman qui nous a d'abord saisi par sa langue. Il faut reconnaître que c'est certainement, à nos yeux en tout cas, le premier roman le mieux écrit qui nous emporte dans une langue lancinante, lyrique, puissante. C'est un grand roman historique qui nous emmène en Grèce, dans la Grèce des caporales, à travers un personnage mystérieux. Et vous voyez, on suit en fait ce personnage dont on ne sait s'il a été du bon ou du mauvais côté de l'histoire. On peut penser au livre de Javier Cercas, et qui va rester.
Qui est le monarque des ombres chez Actes Sud, qui a été notre invité il y a quelques semaines.
Il y a quelques semaines. Et donc ce personnage va rester finalement assez obscur jusqu'à la fin. Je ne vous dévoilerai pas la fin. Si vous voulez, il y a du Julien Gracq dans cette littérature-là. Et c'est quand même les primo-romanciers qui s'inspirent de Gracq ne sont pas si nombreux. Mais il y a aussi du Buzzati dans cette, évidemment, ce récit d'une histoire qui n'avance pas ou qui avance par à coup, qui avance par mystère. Et je trouve que, voilà, Antoine Berrabeur affiche vraiment une singularité dans cette rentrée. Donc c'est la grande idée d'Antoine Berrabeur chez Gallimard.
Deuxième roman.
Alors deuxième roman,
coup de cœur du coup de
deuxième
Transfuge,
coup de cœur, Oriane. C'est un premier roman dont on parle pas mal. C'est celui d'Adeline Dieudonné, La vraie vie chez l'Iconoclaste. Alors Adeline Dieudonné est assez différente de d'Antoine Berrabeur. C'est vraiment peut-être pour d'autres lecteurs, je ne sais, mais en tout cas, elle est drôle, elle est fantasque, elle est cruelle, elle est presque sadique, mais elle crée un personnage féminin. Nous sommes dans une famille avec un père qui a un goût singulier pour le meurtre des animaux, avec un frère à qui il va arriver quelque chose d'assez difficile. Et nous sommes dans la narration d'une toute jeune fille qui va nous mener en guerrière dans son périple familial. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais si vous voulez, c'est cruel et savoureux. Et
en
là,
tout cas, vous nous donnez envie de le lire.
Ah, ça me fait plaisir.
Allez, troisième et dernier coup de cœur.
Alors, dernier coup de cœur, eh bien, c'est un Américain. Il s'appelle Tadzio Kolb. Son livre s'appelle s'appelle Made in Trenton et il est au, chez Buchet-Chastel. Alors Tadzio Kolb, c'est un, vraiment on est dans la tradition de la grande narration américaine puisque on est en 1946, après-guerre, dans une usine, on est dans un groupe d'hommes et puis on se dit tiens, bon c'est intéressant, c'est une peinture un peu sociale de l'Amérique d'après-guerre et peu à peu on va découvrir que les choses sont bien plus compliquées et qu'un personnage qui a l'air d'être un homme bien installé n'est peut-être pas exactement un homme bien installé, mais je ne vais pas vous en dire plus si vous voulez. On est vraiment dans ces personnages obscurs en métamorphose qui font la force, à mon avis, des romanciers les plus surprenants.
Voilà, les trois premiers romans recommandés par Transfuge. Vous ne les mettez pas en couverture, hein, Auriane Jeancourt. Vous préférez mettre en couverture Gaspard Noé.
Eh oui, l'équipe cinéma s'est emballée pour le film de Gaspard Noé, Climax, qui paraît porte bien son nom puisque c'est une expérience physique hors du commun. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent.
Merci Auriane, on se retrouve bientôt.
Avec plaisir, au revoir Toufik.